Le journal Estelle Schmitt. Bonjour Estelle.
Bonjour. Un nettoyage jusqu'à la dernière minute et l'ouverture des bureaux de vote à l'instant pour le premier tour des élections municipales. Scrutin inédit, la France confinée par l'épidémie du coronavirus, le stade 3 désormais déclenché et l'élection donc confirmée. Alors que de nouvelles mesures strictes sont en vigueur depuis minuit, tous les lieux non indispensables à la vie du pays sont fermés, bars, restos, cinéma, commerce, à part quelques exceptions dont les supermarchés. Incitation à rester chez soi face à la hausse des cas de Covid-19. 4500 personnes désormais contaminées en France. Près de 300 cas graves en réanimation et 91 morts. Mais grande inquiétude également des restaurateurs. Ils espèrent des aides de Bercy. Inquiets aussi les professionnels des pompes funèbres. On le verra. Matinale très largement consacrée à la crise du coronavirus. À 8h20, Eric, des professionnels de santé seront vos invités.
Oui, pour cette matinale spéciale, la France prend-elle enfin la mesure de la crise sanitaire? On en parlera avec deux professeurs. Anne-Claude Crémieux, qui est professeur de maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis, et le professeur Frédéric Adnet, chef du service des urgences de l'hôpital Avicenne et du SAMU de Seine-Saint-Denis.
Dans le reste de l'actualité, les adieux du biathlète Martin Fourcade à la compétition et Nathalie Péchala, nouvelle présidente de la Fédération française des sports de glace.
France Inter.
Un scrutin malgré tout, plus de 47,5 millions de Français appelés à voter aujourd'hui pour élire quelques 35 000 maires en pleine crise du coronavirus. Et alors que le gouvernement a annoncé hier soir de nouvelles mesures, fermeture des restaurants, bars et autres lieux de vie non indispensables à la vie du pays. Après avoir un temps envisagé de le reporter, le gouvernement maintient le premier tour de ces municipales. Polémique d'ailleurs jusqu'à l'ouverture du scrutin sur son maintien ou non. Désormais donc, les bureaux de vote sont ouverts avec évidemment des consignes très strictes d'hygiène, mais pas seulement, toute une logistique à réorganiser. Illustration à Saint-Junien, c'est en Haute-Vienne. Reportage Françoise Ravanne.
Il faut rassurer les gens, ils peuvent venir voter en toute sécurité.
Stéphanie Fourgeot est la directrice générale des services à la mairie de Saint-Junien.
Un nouveau cheminement a été mis en place pour que les flux ne soient pas croisés au niveau des personnes qui vont venir voter, avec un barriérage et un sens de circulation pour que les choses se fassent tout naturellement. Il n'y aura pas de contact physique, même au niveau des isoloirs et au niveau de la table où les assesseurs vont pouvoir recevoir les électeurs.
Mais il n'a pas toujours été possible, dans certains bureaux de vote trop petits, d'espacer d'un mètre les isoloirs. Les isoloirs en revanche tournés vers le mur, ce qui permet de préserver la confidentialité. On peut ainsi éviter de fermer les rideaux et donc de les toucher. Tout est aussi prévu pour se désinfecter. Pascal Ratto, en charge du service des élections.
La majorité des électeurs devraient venir avec leur stylo. À ce niveau-là, s'ils veulent voter, on aura toujours des stylos, hein, bien sûr, il n'y a pas de souci là-dessus. On a un système de lingettes pour les désinfecter régulièrement. Au niveau de la table de décharge où se trouvent les enveloppes et les bulletins, il y aura du gel hydroalcoolique pour que les gens puissent se laver les mains en entrant.
Il y en aura aussi après avoir signé la feuille d'émargement. Mais pour ce scrutin qui se déroule dans un contexte inédit, plus que le résultat du vote, la principale inconnue, c'est la participation.
Françoise Ravanne, France Bleu Limousin, et soirée spéciale municipale sur Inter, tout à l'heure après le journal de 19h, émission présentée par Claire Servageant, résultat des 20h, décryptage, analyse et réaction. Et puis à propos de la participation à ce premier tour des municipales, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a qu'il s'attendait à ce qu'elle soit en baisse à cause du coronavirus. Des Français inquiets, surtout confinés pour certains ou encore malades. Le gouvernement face à l'accélération de l'épidémie, près de 4500 cas en France depuis fin janvier, selon le dernier bilan en date. 91 personnes sont mortes, 300 sont en réanimation. D'où le passage au stade 3 annoncé hier soir. Avec lui, de nombreuses restrictions de circulation, de réunions, de vie sociale. La France désormais confinée pour contenir l'épidémie. On passe à la vitesse supérieure, Sophie Bécherel, car les mesures prises jusqu'ici n'ont pas suffi. Les Français manquant un petit peu de discipline.
En France, les autorités ont adopté une stratégie de confinement par paliers. Résultat, les citoyens ne l'ont pas comprise et selon le Premier ministre, se sont montrés trop dilettantes avec les consignes. Édouard Philippe.
Les premières mesures prises de limitation des rassemblements sont imparfaitement appliquées. Après les annonces du président, nous avons vu trop de gens dans les cafés, dans les restaurants. Cela me réjouirait en temps normal, parce que c'est la France que nous aimons tous. Mais pour quelques semaines, ce n'est pas ce que nous devons faire.
À partir d'aujourd'hui, tous les commerces ferment, sauf l'alimentation, les pharmacies, les tabacs et les banques. Les lieux de culture également, le télétravail doit être généralisé, les déplacements sont réduits au strict nécessaire. La stratégie mise en place, c'est de casser le virus en supprimant sa circulation d'un individu à l'autre. La Chine a démontré l'efficacité de la quarantaine. Jérôme Salomon, directeur général de la santé.
Nous évoluons vers une épidémie généralisée dans les tout prochains jours, mais tout va dépendre du comportement du virus et surtout du respect par les individus et par la collectivité des mesures barrières. C'est maintenant qu'il faut changer de comportement.
Limiter les contaminations, c'est surtout aider les soignants à mieux prendre en charge les malades, car en cas d'afflux massif, faute de personnel et de moyens de réanimation, ils ne pourraient plus faire face correctement.
Sophie Bécherel.
À minuit donc, hier soir, les restaurants, bars et autres discothèques ont dû fermer leurs portes.
Inédit, là aussi, surtout un samedi soir. Incompréhension pour certains, inquiétude pour d'autres, les restaurateurs évidemment. Ces derniers jours, ils avaient déjà vu leur chiffre d'affaires baisser avec une baisse de la clientèle. Avec la fermeture jusqu'à nouvel ordre, eh bien, ils s'arrachent les cheveux, Laurent Kramer.
De la gestion des stocks au paiement des loyers ou de leurs fournisseurs, l'addition globale pour les métiers de la restauration s'annonce vertigineuse et les inquiète, car les commerçants indépendants restent aujourd'hui les parents pauvres des annonces gouvernementales. Si les personnels salariés des restaurants et cafés pourront bénéficier du chômage partiel rémunéré à 84% du salaire net et pris en charge entièrement par l'État, de nombreux couples travaillent toujours en duo et seuls dans la restauration, s'inquiètent les professionnels. Les reports de charges et d'impôts déjà annoncés ne devraient pas non plus suffire pour de très nombreux indépendants. Les professionnels de la restauration attendent donc dès lundi de nouvelles mesures annoncées par Bruno Le Maire à Bercy.
Et dès demain, donc, les entreprises se lancent dans une vaste opération de télétravail, lorsque c'est possible évidemment, alors que les crèches et tous les établissements scolaires seront fermés au moins jusqu'aux vacances de printemps. Exception faite pour les enfants du personnel soignant qui seront accueillis demain normalement par des enseignants dans les écoles ou dans des crèches. Enfin ça c'est sur le papier, parce que dans la pratique ce n'est pas toujours facile à mettre en place. Exemple à Marseille, Olivier Martoc.
Les personnels de l'assistance publique ont bien reçu la consigne d'emmener leurs enfants lundi dans les écoles qui resteront ouvertes pour les accueillir. C'est plus compliqué pour les crèches, qui ne doivent pas dépasser le seuil de 10 enfants désormais. Éric Demec, à la tête de la micro-crèche privée Les Petits Soleils, attend des consignes qui ne viennent toujours pas.
Vendredi, nous avons prévu de fermer pour répondre aux directives. Et puis, on apprend que les micro-crèches ouvriraient lundi. Alors ça nous met dans un cas de conscience, parce que ouvrir lundi, certes, ça rendra service à beaucoup de nos parents, dont certains paraissaient vraiment désemparés pour pouvoir continuer leur activité. Et en même temps, on nous dit que le personnel soignant, les gens des urgences, ont du mal à faire garder leurs enfants, mais on n'en sait pas plus. Donc on est prêt, ce qui n'est pas la vertu initiale du privé. On a loué des berceaux à des gens, on est censé leur rendre ce service-là. D'où le besoin de nous réquisitionner si on a besoin de nous. Et on est totalement motivé pour ça, parce que quand on est dans une société, on vit avec sa société.
Marseille, les capacités de lits d'accueil pour les soins critiques ont été doublées et portées à 700. Une quinzaine seulement sont actuellement occupées par des malades du coronavirus. Marseille, Olivier Martoc, France Inter.
Des professionnels de santé en contact avec des personnes porteuses du coronavirus et qui doivent donc se protéger. Dans les hôpitaux, c'est le cas, mais pour les autres en ville, notamment le Comte, n'y est visiblement pas. Beaucoup se plaignent de ne pas avoir accès aux masques de protection. C'est également le cas d'autres professionnels, comme les salariés des pompes funèbres, parce que dans un avis rendu mi-février, le Haut Conseil de la Santé publique considérait que le risque de contamination était le même chez un patient vivant que chez un patient mort du coronavirus, et les corps doivent immédiatement être mis en bière. Difficile donc pour les personnes mortes chez elles ou en maison de retraite, Sébastien Sabiron.
Gilles Efflinger gère plusieurs agences de pompes funèbres près de Mulhouse, dans le Haut-Rhin. 46 salariés et l'inquiétude qui vient de monter d'un cran.
Notre inquiétude vraiment la plus forte, c'est le cas d'aujourd'hui où on a une personne qui est décédée dans une maison de retraite. Très forte suspicion de coronavirus. Nous sommes totalement démunis parce qu'on n'a aucune procédure qui est clairement définie. Nous n'avons aucun masque qui nous est fourni et aucune possibilité d'en acquérir.
Car les pompes funèbres ne sont pas considérées comme personnel sanitaire et donc pas prioritaires pour l'attribution des fameux masques FFP2. Chaque jour, Florence Fraisse reçoit 4 à 5 appels de professionnels anxieux. Elle dirige la Fédération française des pompes funèbres.
Si des personnes décèdent à domicile, nous devons avoir exactement les mêmes équipements que ceux qu'auraient des soignants à l'hôpital. On ne veut pas exposer nos personnels au risque. On ne veut pas non plus prendre le risque d'avoir demain des personnels qui utiliseraient, ce qui serait une catastrophe en France, un droit de retrait sous couvert qu'ils n'ont pas les équipements de protection adéquats.
Autre inquiétude pour les entreprises, l'obligation légale par exemple de retirer d'éventuels pacemakers, alors même qu'aucun soin ne doit être pratiqué sur le corps des défunts en cas de suspicion de coronavirus. La Fédération demande au ministère de la Santé de devenir prioritaire au même titre que les soignants pour l'attribution du matériel de protection. Aucune réponse pour le moment.
Reportage signé Sébastien Sabiron.
La France se claquemure donc face au coronavirus et d'autres pays européens, eux, sont totalement confinés.
C'est le cas de l'Italie depuis quelques jours, pays européen le plus touché, mais également de l'Espagne. Décision annoncée hier. Au moins 183 personnes sont mortes depuis le début de l'épidémie et des habitants désormais mis à l'isolement presque total. La correspondance à Madrid de Marie-Hélène Ballestero.
En premier lieu, il s'agit de limiter la circulation des personnes pendant 15 jours pour l'instant. Les Espagnols ne pourront sortir de chez eux que pour aller travailler ou en cas d'assistance à des personnes âgées, handicapées ou à des enfants. Ils pourront aussi sortir de façon individuelle pour acheter à manger ou des produits de première nécessité, retirer de l'argent, aller à la pharmacie ou chez le médecin ou encore promener son chien. La circulation des personnes sera donc limitée et surveillée par les forces de sécurité et l'armée, chargées de faire respecter ces mesures de confinement sous peine de sanctions. Tous les établissements et commerces resteront fermés dans tout le pays, sauf les alimentaires et de première nécessité comme les pharmacies. À travers ce décret, le gouvernement espagnol recentralise aussi toutes les compétences en matière de santé et de sécurité, ce qui n'est pas du goût des gouvernements basques et catalans. C'est aussi pour cette raison que Pedro Sanchez a appelé à l'unité des Espagnols et à la coopération des régions, en laissant de côté les différences pour faire face et vaincre ensemble le virus. Madrid, Marie-Hélène Ballestero, France Inter.
D'autres pays décident ce matin de fermer leurs frontières. Estonie, Lituanie, Venezuela, Équateur, Bolivie et Guatemala renforcent les mesures de restriction à l'égard des personnes en provenance des pays les plus touchés par l'épidémie de coronavirus. Tandis que le médecin de la Maison-Blanche annonce que Donald Trump n'est pas porteur du coronavirus, le président américain a refusé pendant des jours de se faire tester. En Israël, on apprend ce matin que l'ouverture du procès de Benjamin Netanyahou pour corruption, fraude et abus de confiance dans plusieurs dossiers est reportée au 24 mai en raison de la crise du coronavirus. Dans le monde, près de 150 900 cas d'infection détectés, 5 791 morts dans 137 pays dénombrés hier soir. La crise du coronavirus qui oblige également les ONG à se réorganiser. Ces organisations non gouvernementales sont habituées, c'est vrai, aux catastrophes, aux terrains difficiles, mais là c'est différent, à tel point que certaines ont dû suspendre leurs activités et d'autres, Mathilde Dehémy, les maintiennent tant bien que mal.
Télétravail pour les salariés du siège. Seuls les déplacements essentiels aux missions sont assurés. Médecins du Monde, comme d'autres ONG, s'adaptent aux mesures sanitaires internationales. Philippe de Botton, président de Médecins du Monde France.
Il faut d'une part ne pas propager le virus, veiller à la santé bien évidemment des personnes dont on s'occupe, mais aussi des équipes salariées et bénévoles, et avoir en tête surtout de continuer nos activités parce que c'est fondamental.
Continuer coûte que coûte à aider les plus démunis, sans abri ou exilés, ceux qui n'ont même pas accès à un point d'eau pour se laver les mains. De nouvelles règles sont appliquées pour les 2000 bénévoles en France. Philippe de Botton.
La continuité pourra se faire, peut-être pas au même rythme. Dans certains centres de soins où on est ouvert tous les jours, peut-être qu'on sera amené à n'ouvrir que 3-4 jours par semaine. Mais en tout cas, des bénévoles un peu âgés, on leur conseille de ne pas venir.
Médecins du Monde a pour l'instant en réserve suffisamment de gel hydroalcoolique et de masques pour travailler. D'autres ONG, hors médicales, ont fait le choix de suspendre leurs activités. Comme architecte de l'urgence, Patrick Coulombel, son cofondateur.
On n'a pas de problème de rapatriement de personnel. Par contre, il y a des opérations qui devraient se mettre en place et qu'on a stoppées dans la mesure où on sait pertinemment que c'est des endroits où il y a beaucoup de monde et que ce n'est pas prudent de le faire.
Architecte de l'urgence a notamment dû suspendre son travail de sécurisation d'un squat à Montreuil où vivent 250 personnes.
Et Mathilde Dehémy.
Et ce coronavirus est aussi responsable de l'annulation de presque tous les événements sportifs.
Oui, on l'a dit, à part les championnats du monde de biathlon en Finlande, synonyme de retraite pour le français Martin Fourcade. Il l'avait annoncé vendredi soir. Eh bien, il part sur une victoire, la 83e de sa carrière. Fourcade, biathlète le plus titré de l'histoire de son sport. Une sortie par la grande porte, Guillaume Batin.
Martin Fourcade a survolé son sport pendant une décennie. Son palmarès affole les compteurs. 7 médailles olympiques, dont 5 en or, 13 titres mondiaux, 83 victoires en Coupe du Monde dans toutes les épreuves, du sprint à la poursuite en passant par la mass start. Un cran au-dessous du Norvégien Ole Einar Bjørndalen, mais sur une durée beaucoup plus courte. Très présent sur les réseaux sociaux, Martin Fourcade est l'homme qui a médiatisé le biathlon en France. Performant sur la neige, il a aussi brillé par ses interventions médiatiques, ce qui lui a valu à plusieurs reprises des récompenses comme celui du sportif de l'année et sportif le plus sympathique. Chevalier de la Légion d'honneur et de l'Ordre national du mérite, Martin Fourcade est l'auteur d'un livre, Mon rêve d'or et de neige, un rêve qu'il a évidemment largement réalisé.
Et puis à peine désigné, les dossiers s'accumulent déjà sur son bureau. L'ancienne patineuse Nathalie Péchala a eu haut la main hier, présidente de la Fédération française des sports de glace, une fédération en pleine tourmente après les révélations de scandales sexuels. Première mission de cette nouvelle présidente, restaurer la confiance avec le ministère des Sports qui menace toujours la fédération de lui retirer sa délégation. Nathalie Péchala le sait, sa tâche ne sera pas facile.
J'en ai conscience et je pense là encore que je ne suis pas au bout de mes surprises. Il y a énormément de choses à faire, de projets, d'évolutions à apporter. Donc oui, je me rends compte que c'est compliqué. Et puis il y a une enquête qui est en cours par le ministère des Sports. Donc il va falloir entendre les résultats. Sur les violences, ça sera courant avril. Et puis sur le fonctionnement de la fédération, ça sera quelques mois plus tard. Oui, la FFSG va être assainie de fait. J'ai conscience qu'il y a des vraies souffrances au sein de la fédération, encore une fois au sens large, et de ses adhérents. L'idée, c'est de construire un projet commun, et ce n'est pas forcément de couper toutes les têtes, de mettre des coups de pied dans tous les sens. Je pense qu'il faut le faire de manière posée. De fait, elle est là, la rupture. Ça fait quand même presque 20 ans que Didier Gaëgué était à la tête de cette fédération. Oui, le renouveau, il est ici et je suis là pour porter ce renouveau.
Nathalie Péchala au micro France Inter de Jérôme Val.
C'était le journal d'Estelle Schmitt.